Oui, ça, c'est un peu, je dirais, l'inverse au niveau, au point de vue moral de son grand-père, qui était un homme, un libertin, un homme qui a eu beaucoup de maîtresses, comme on le sait, beaucoup de favorites. Louis XVI, au contraire, va être quelqu'un de tout à fait chaste et de très timide, de très renfermé. Et très longtemps, d'ailleurs, son mariage avec Marie-Antoinette, on a vu qu'il a été marié à 14 ans pour elle, 16 ans pour lui, donc vraiment très jeune, et très jeune aussi pour l'époque, parce que contrairement à ce qu'on imagine, les gens du XVIIIe siècle ne se mariaient pas très très jeunes. Hein. Dans les paysans, par exemple, quand on prend les registres des paroissiaux, ils se mariaient à une moyenne de 25-26 ans. D'abord parce qu'il fallait attendre d'être suffisamment établi pour pouvoir fonder une famille, et aussi parce que, étant donné que... je dirais que c'était une sorte un peu de contraception avant l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on était marié, de toute manière, on allait avoir des enfants autant que la nature voulait bien en donner. Donc en se mariant plus tard, on retardait en quelque sorte l'échéance, surtout pour les femmes qui, de toute manière, avaient de grandes chances. Je crois que le taux de mortalité des femmes enceintes était de 11 pour 1000, ce qui est quand même assez énorme. C'est-à-dire qu'à chaque accouchement, c'était un peu la roulette russe pour les femmes. Donc ce mariage de jeunes adolescents va très longtemps ne pas être consommé ou mal consommé, on ne sait pas exactement. Alors on a beaucoup glosé sur l'impuissance possible ou supposée de Louis XVI, sur éventuellement un phimosis qu'il aurait eu, mais on n'a aucune trace vraiment nette d'une opération qu'il aurait pu subir. Il est probable que c'était plutôt de l'ordre d'un blocage psychologique et d'un manque d'expérience de l'un et de l'autre, hein, et des manques, je dirais, de tempérament, mais aussi de l'un et de l'autre. C'est d'autant plus vrai que les choses vont se débloquer à partir du moment où il y aura où le frère de Marie-Antoinette, l'empereur Joseph II, va venir à Versailles pour essayer d'un peu arranger les choses au printemps de 1777. Il va avoir une conversation avec Louis XVI, et à partir de ce moment-là, on a l'impression que les choses vont se débloquer puisque le mariage va être consommé quelques mois plus tard, au mois d'août. Alors c'était vraiment une affaire d'État, hein. On a la trace dans les lettres de Marie-Antoinette à sa mère, dans les lettres de Mercier Argenteau, l'ambassadeur, etc. Enfin, c'est vraiment tout ça est regardé à la loupe. Et elle va se retrouver enceinte donc en mars 1778, donc après quand même pratiquement 8 ans de mariage, 7 ans et demi de mariage. Alors cette grossesse, bien sûr, est attendue avec beaucoup de... d'impatience, et elle est accueillie avec beaucoup de joie. On va donner, le roi fait donner, alors là voici Marie-Antoinette jeune, sans doute un peu améliorée, hein, parce qu'elle n'était probablement pas aussi belle que cela. En plus, elle n'avait pas de forme. D'ailleurs, son frère disait plate comme ma sœur Marie-Antoinette, parce qu'elle était vraiment, elle n'avait aucune forme quand elle était, en plus elle était quand même très très jeune. Hein. Voilà, donc là, la chapelle que vous connaissez tous, la chapelle du château, qui va être un lieu important dans notre récit parce qu'il a été le lieu du mariage, il a été aussi maintenant le lieu de ce Te Deum le 9 juin 1778 pour remercier Dieu de la grossesse de la reine. Et puis bon, la grossesse continue. En juillet 1778, il y a une anecdote qu'on raconte. À ce moment-là, l'enfant commence à bouger et Marie-Antoinette va voir le roi et lui dit « Sire, je viens vous demander justice contre un de vos sujets qui me donne des coups de pied dans le ventre. » Voilà, et donc, une manière de présenter les choses de manière amusante. Bien sûr, à l'époque, les seules, je dirais, médecines qu'on peut donner, c'est les saignées, les purgations, etc., qui ne vont pas beaucoup aider à la grossesse. Mais la grossesse, Dieu merci, se passe bien. Elle choisit en plus comme accoucheur un personnage qui n'est pas particulièrement un très très bon médecin, mais qui est le frère de son précepteur qui était l'abbé de Vermont. Donc là, elle choisit son frère qui est Charles Toussaint de Vermont, qui est réputé surtout pour son ignorance en médecine, mais bon, qui va quand même, les choses vont bien se passer parce qu'il n'y aura pas eu de difficultés, heureusement, au moment de la naissance. Alors, il faut voir qu'au XVIIIe siècle, c'est une époque où les progrès de l'obstétrique, des accouchements, etc., sont quand même importants. D'abord, c'est le moment où le métier de sage-femme se crée véritablement. Il y avait avant déjà des sages-femmes, il y avait plutôt des matrones dans les villages, qui étaient des femmes souvent pas très instruites, un peu sorcières sur les bords, et qui aidaient au moment des accouchements. Là, vraiment, on va mettre en place une formation beaucoup plus, je dirais, médicale, en particulier une certaine Angélique du Coudray, qui va créer cette... qui se promène alors dans toute la France avec un mannequin qu'on appelle le fantôme, je ne sais pas bien pourquoi, qui est donc une, avec lequel elle explique donc aux sages-femmes comment procéder en fonction de l'emplacement voilà, de l'enfant au moment de la naissance. Donc il y a vraiment une technique maintenant beaucoup, beaucoup plus élaborée, donc qui va faire baisser quand même la mortalité chez les femmes en couche. C'est aussi à l'époque où on invente le forceps aussi pour les accouchements difficiles. Alors, l'approche de l'arrivée de l'enfant, on a prévu 3 nourrices, hein, pour être sûr qu'il y en a une qui soit fonctionnelle au moment donné. Louis XVI va se montrer un père très attentionné, un mari très attentionné autour de son épouse. Mais vraiment, la grande idée, c'est est-ce que ça va être un garçon ? Parce que c'est bien que dans la monarchie française, les filles n'ont aucun droit de succession, c'est la loi salique, et donc il faut absolument un dauphin. Alors, la reine... il n'y a pas d'échographie à l'époque, donc elle envoie un peu de son urine à un charlatan qui s'appelle Printemps, qui regardant l'urine dit ça va être un garçon, pas de chance, ça va être une fille, il n'a qu'une chance sur deux de se tromper. Et donc le 19 décembre 1778 va naître donc Marie-Thérèse, donc la fille aînée de Louis XVI et de Marie-Antoinette. L'accouchement est public, et alors là c'est vraiment... je dirais le dernier accouchement vraiment public de l'Ancien Régime. Pourquoi est-il public ? D'abord parce que ça s'inscrit dans l'étiquette de... L'accouchement se passe bien sûr dans la chambre officielle de la reine, la chambre d'apparat de la reine. Ça fait partie de l'étiquette instaurée par le roi Soleil, c'est-à-dire qu'on doit, c'était vrai déjà auparavant, hein, on doit avoir une... L'accouchement doit être public parce qu'il faut attester du caractère indiscutable de la transmission de la couronne et dire qu'il n'y a pas eu, substitution d'enfant ou quoi que ce soit. Et donc, tout le monde doit pouvoir assister à cet événement. Donc, ça se passe dans la chambre de la reine, à l'extrémité de la galerie des glaces, du côté du salon de la paix. Ici, connaît parfaitement le château, j'imagine. Et c'est une pièce dans laquelle il y a eu une importance primordial dans la dynastie, puisque 19 enfants y ont vu le jour depuis l'installation de Louis XIV à Versailles, dans cette chambre, dont le futur Louis XV et dont le futur Philippe V d'Espagne. Donc c'est vraiment un lieu historique. Hein. Et là, à son tour, Marie-Antoinette va accoucher de ses 4 enfants à cet endroit-là. Alors la chambre a été redécorée, comme vous le savez, au début du règne. On y a ajouté des aigles d'Autriche aux armes de France, et donc c'est un lieu particulièrement solennel qui sert d'écrin à cette première naissance. Alors par malheur, au moment fatidique, le fameux docteur Vermont, dont on a dit le peu de qualité professionnelle, crie à toute volée « la reine accouche ». Bien sûr, tout le monde arrive en flot des pièces voisines, un flot de curieux, mais alors tout venant, c'est-à-dire aussi bien les princes du sang qui doivent être là pour assister, mais également des serviteurs. On raconte même que 2 petits savoyards qui étaient là pour nettoyer les cheminées montent sur les meubles pour mieux voir ce qui se passe. La reine, ça a été placée dans un lit de travail, hein, c'est-à-dire c'est pas dans son grand lit d'apparat, c'est une sorte de petit lit étroit qui permet d'accoucher, qu'on appelle le lit de travail. Le roi avait fait placer d'immenses paravents de tapisserie autour du lit quand même pour ménager un peu d'intimité à la reine. Heureusement, il avait fait attacher ses paravents parce que sinon, il se serait effondré sur la reine et il y aurait eu sans doute un malheur. Enfin bon, c'est vraiment une espèce de bazar terrible dans cette chambre. Madame Campan, qui raconte dans ses mémoires, qui était présente, dit « une foule si mélangée qu'on pourrait se croire sur une place publique ». Donc vous imaginez un petit peu l'ambiance. La reine fait une syncope parce qu'il fait trop chaud, elle ne peut plus respirer. Selon la médecine de l'époque, on va la saigner au pied parce qu'on pense que c'est comme ça que ça va la faire revenir de sa syncope. Elle revient de sa syncope. J'imagine que ce n'est pas vraiment la saignée qui l'a aidée, ou c'est peut-être la douleur, mais enfin, en tout cas, elle revient. On raconte que le roi, mais on n'est pas sûr que ce soit authentique, en tout cas, fait ouvrir ou ouvre lui-même les fenêtres. Alors il faut voir que les grandes fenêtres du château, à l'époque, étaient calfeutrées avec des bandes de papier, hein, pour éviter les courants d'air. Donc elles sont collées, en fait, et il faut tirer vraiment très très fort pour arriver à arracher cela et les ouvrir. Donc l'air entre et elle peut reprendre, la reine peut reprendre un petit peu ses esprits. Donc elle a accouché à 11h30 du matin, donc ce 19 décembre 1778, et c'est vraiment dans tout le château immédiatement une espèce de folie, tout le monde s'embrasse, tout le monde se congratule, etc. Même si dans un premier temps on avait été un peu consterné du fait que c'était une fille et pas un garçon, bon, la joie reprend quand même vite le dessus, et là tout le monde est quand même très heureux de cette naissance. L'enfant est emmailloté, selon les préceptes de l'époque, et placé immédiatement entre les bras de sa nourrice, de sa gouvernante, Madame de Guéméné, donc qu'on voit ici, voilà, qui est donc la gouvernante des enfants de France. Je vais vous en reparler par la suite. Alors, le roi exprime une grande joie à cette naissance. La reine dit... parle de la pauvre... Alors justement, là, c'est une petite parenthèse que je voudrais faire, parce qu'on dit souvent que Marie-Antoinette détestait, enfin méprisait Louis XVI, parce qu'elle disait « le pauvre homme hein, ». Le pauvre homme. Mais il faut voir qu'à l'époque, le mot « pauvre », dans cette acception-là, avait un sens de tendresse et de familiarité, et sans aucun mépris. Quand elle parle de sa fille, elle dit « la pauvre petite ». Elle dit tout le temps « la pauvre petite ». Ça veut dire « la chère petite ». Le pauvre homme, ça veut dire le cher homme, en fait. Ce n'est pas du tout une espèce de mépris qu'elle aurait eu à l'égard de son... C'est vraiment anachronique de penser cela. Alors, on raconte, mais c'est probablement aussi une fausse histoire, qu'on aurait fait placer des canons, enfin, Marie-Thérèse aurait fait placer des canons de Vienne à Paris pour que la nouvelle puisse se propager très rapidement, en 5 heures jusqu'à Vienne. Bon, ça paraît un peu peut-être de la légende. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dès l'après-midi, donc quelques heures après la naissance, le baptême est célébré donc dans la chapelle du palais par le grand aumônier de France, le cardinal prince de Rouen, dont on aura à reparler plus tard pour cette histoire du collier que vous connaissez bien. Et ce cardinal prince de Rouen, grand aumônier de France, est à côté de lui le curé de la paroisse, puisqu'il voit que le château fait partie dépend administrativement de la paroisse Notre-Dame de Versailles, de l'église Notre-Dame de Versailles. Donc c'est le curé de Notre-Dame de Versailles qui enregistre dans ses... vous avez ici, on va le voir, dans ses registres paroissiaux, le curé honoré Nicolas Broqueviel, donc curé de Notre-Dame, qui note dans ses registres paroissiaux, comme pour n'importe quel enfant... de petite dame de la ville, la naissance de la fille du roi. C'est un acte particulier, parce qu'on voit, bien sûr... Voilà, on a en bas, j'ai fait un agrandissement, donc vous voyez, vous avez en signature Louis, donc le roi, vous avez ensuite Louis Stanislas Xavier, donc le comte de Provence, le futur Louis XVIII, Marie-Joséphine de Louise de Savoie, l'épouse du comte de Provence, Philippe, le futur Charles X, Artois, avec son épouse Marie-Thérèse de Savoie. Ensuite, on a les filles de... On a Madame Elisabeth, donc la sœur de Louis XVI. Ensuite, on a les vieilles filles de Louis XV, Madame Adélaïde, Madame Victoire, ensuite Madame Sophie, ensuite on a le duc d'Orléans, donc le vieux duc d'Orléans qui est encore vivant, avec son fils Louis-Philippe Joseph, le futur Philippe Égalité. Donc on a vraiment une page d'histoire, si vous voulez, en très très peu de temps. Et ensuite on a les différents princes de Bourbon, Conti, Condé, les autres princesses d'Orléans, etc. Donc on a vraiment, si vous voulez, dans ce registre paroissial qui est un registre paroissial tout à fait ordinaire, finalement, une page d'histoire comme ça qui apparaît. Et on le reverra à chaque fois qu'il y aura une naissance, puisque pour la naissance des quatre enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette, on aura à nouveau un acte comme cela dans les registres de Notre-Dame. Voilà, donc là c'est aussi le texte, donc si vous voulez, l'an 1778, oui, j'ai un peu du mal, enfin bon. Si vous voulez le revoir, je vous l'agrandirai tout à l'heure. Voilà, donc c'est un usage assez nouveau à la Cour de France de baptiser les enfants royaux immédiatement. Ce qui est un peu étonnant, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle, on avait l'habitude de les ondoyer à la naissance. Bon, c'était le cas pour Louis XIII, par exemple, hein, qui était né à Fontainebleau, mais qui n'a pas été baptisé à la naissance, ce qui fait qu'il n'avait pas de prénom, et jusqu'à son baptême officiel à l'âge de 5 ans, c'était Monsieur le Dauphin, et il n'y avait pas de prénom, ce qui est assez inimaginable à notre époque. Et donc, le futur Louis XIII ne devient Louis qu'au moment de son baptême à l'âge de 5 ans. Là, Louis XVI inaugure, je dirais, une nouvelle façon de faire, puisqu'il fait baptiser ses enfants comme n'importe quel jeune Français, même plus tôt, parce que généralement c'était dans les deux jours, en général c'était le lendemain de la naissance, lui c'est le même jour, et il leur donne un prénom, leur donne des prénoms dès leur naissance. Ce que ne faisaient pas, par exemple, les Orléans, ne le faisaient pas encore. Hein. Donc c'est vraiment Louis XVI qui a instauré vraiment cela, parce que je pense qu'il était considéré que le baptême était un acte essentiel. C'était un homme très, très chrétien, très croyant, et donc il pensait que le baptême était un acte solennel qu'il fallait faire le plus tôt possible. Donc elle est baptisée immédiatement, quelques heures après sa naissance, sa grand-mère, donc Marie-Thérèse Charlotte. Bon, pourquoi ? Parce que Marie-Thérèse, c'est le nom de sa grand-mère, l'impératrice, qui est aussi sa marraine en l'occurrence, et puis Charlotte, parce que son parrain, c'est le roi Charles III d'Espagne, représenté par le comte de Provence, qui bien sûr supplée le parrain absent. Elle va avoir le nom de Madame fille du roi, mais alors pour la différencier de l'autre Madame, qui est l'épouse de Monsieur, c'est-à-dire Monsieur frère du roi, le comte de Provence, on l'appelle Madame Royale. Donc ce surnom de Madame Royale sera Marie-Thérèse de France, Madame Royale, ce sera les différents noms qu'elle portera avant d'être ensuite duchesse d'Angoulême lorsqu'elle se mariera beaucoup plus tard. On a commencé, c'est à l'époque où on commence déjà à dire de Marie-Antoinette à certaines heures. Faire beaucoup de rumeurs et beaucoup de malveillance sur Marie-Antoinette. Il y a des libelles, des pamphlets qui racontent qu'elle n'est pas fidèle au roi. Et puis, évidemment, le fait que le roi ait attendu aussi longtemps pour véritablement pour consommer son mariage fait qu'on se pose des questions sur la virilité, entre guillemets, et la passivité du roi. Et d'ailleurs, on peut s'amuser un petit peu. Pour vous montrer un petit peu à l'ambiance de l'époque, on chante une petite chanson sur le roi à l'époque en disant « Trois ou quatre fois condamné par la salubre faculté, pour impuissance très complète, ne peut satisfaire Antoinette. De ce malheur bien convaincu, attendu que son allumette n'est pas plus grosse qu'un fétu, que toujours molle et toujours croche, il n'a de vie que dans la poche. » Vous voyez, on savait dire des choses avec une certaine verdeur à l'époque. Cela étant, il n'y a aucune preuve des infidélités de Marie-Antoinette, on en parlera plus tard pour Fersen. Fersen n'était pas là de toute manière à ce moment-là. Il est très probable qu'elle était. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai en ayant quand même fréquenté le personnage, puisque j'ai aussi écrit une biographie de Marie-Antoinette, l'impression que c'est quelqu'un qui n'avait pas beaucoup d'attrait, ni Louis XVI d'ailleurs, pour ces choses-là, et qui de toute manière n'était pas, n'avait pas un tempérament qui l'aurait porté à avoir des amants. Alors les festivités, bien sûr, sont à Paris et en France, sont à la hauteur de l'événement. Mais très vite, la reine se dit qu'elle doit réparer sa sottise. Pourquoi sa sottise ? Parce que, bien sûr, elle a donné une fille et non pas un garçon. Alors, en attendant, on peut parler de ce qui est la maison des enfants de France, puisque cette nouvelle princesse va être entourée d'une maison, c'est-à-dire d'un grand nombre de serviteurs qui lui sont attachés directement dans le cadre de cette étiquette de Versailles, de cette mécanique de la cour que Louis XIV a mis en place. Alors, à la cour de Versailles, vous avez 12 ou 300 familles qui ont les honneurs de la cour qui y résident pratiquement en permanence, mais autour de cela, n'importe qui, plusieurs fois par semaine, ce qu'on appelle les jours d'appartement, peuvent entrer dans le château à condition d'être relativement bien habillé, d'avoir une épée, de louer une épée à l'entrée et un chapeau pour donc se promener dans les couloirs. Enfin bon, tout est... C'est beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus ouvert que le Palais de l'Élysée aujourd'hui, où on ne peut même plus marcher sur le trottoir de l'Élysée. Je ne sais même pas si on peut marcher sur le trottoir d'en face. Donc, cette petite princesse va aller dans ce qu'on appelle l'aile des princes, hein, au rez-de-chaussée de l'aile du Midi, qui donne sur la terrasse qui domine l'orangerie du château. Donc on a cet appartement des princes que vous avez sans doute visité. Madame Royale, donc, en arrivant, va déloger sa tante Madame Élisabeth, donc la jeune sœur de Louis XVI qui a 14 ans, qui était restée dans l'appartement des enfants et qui va être placée dans un autre appartement. Et puis bien sûr ensuite, lorsqu'elle va avoir ses frères et sa sœur, eh bien Marie-Thérèse va partager cet appartement des enfants avec les autres enfants. Alors elle a une maison, donc un personnel, si on dirait aujourd'hui, de 80 personnes autour d'elle. Hein, pour un tout petit bébé, c'est quand même beaucoup. Et encore, on a réduit le nombre, hein, comme dit Marie-Antoinette, de manière à supprimer une mollesse nuisible, une affluence inutile de gens de service et toute image propre à faire naître des sentiments d'orgueil. Parce que Marie-Antoinette est très attachée à ce que sa fille pas un orgueil démesuré, d'autant que on va voir que c'est tout de même un peu dans son tempérament, donc elle va faire en sorte toujours d'essayer de la ramener à une attitude plus raisonnable. Donc cet appartement des princes qui est magnifiquement remeublé aujourd'hui, voilà. Et donc là on a je dirais la celle qui dirige cette équipe de 80 personnes, donc qui a un rôle quand même très important, qui est Victoire de Rensoubise, princesse de Guéménée, donc qui est la gouvernante des enfants de France. Alors c'est une charge héréditaire. Il faut savoir que ces charges dont on parle à la cour de France étaient des choses que l'on achetait, hein, qu'on payait. C'était pas le roi qui vous nommait, comme aujourd'hui on peut être nommé, je ne sais pas, inspecteur des finances ou directeur d'un bureau de poste. Non, on achetait la charge. Qu'on tenait ou dont on héritait d'une cousine ou d'un parent ou d'un père, etc. Et là, cette charge, en l'occurrence, de gouvernante des enfants de France, c'est transmise dans la même famille depuis très longtemps, puisque l'arrière-grand-mère de madame de la princesse de Guéménée était la duchesse de Ventadour, qui avait été gouvernante à l'époque de Louis XIV. Donc c'est une charge héréditaire qui est une charge très importante, qui donne le pas sur toutes les autres grandes dames de Versailles. Elle peut monter dans les carrosses de la reine, elle peut se faire porter en chaise à bras jusque dans la chambre des souverains. Je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas c'est un privilège qu'elle a. Mais en contrepartie, sa responsabilité est très lourde, puisqu'elle doit diriger tous ses autres officiers, donc ces 80 personnes qui constituent la maison de la petite princesse, et ensuite les maisons des autres princes qui vont naître par la suite. Donc tout ça va faire de plus en plus de monde. C'est elle qui surveille la gestion administrative avec le ministre de la Maison du Roi, qui règle les fournisseurs, et donc au passage, c'est un moyen aussi d'obtenir un certain nombre de gratifications, de faire éventuellement des on dirait aujourd'hui des magouilles. Ça n'existait aussi à cette époque-là. On parle aussi d'économie de bout de chandelle, hein, parce que comme on voulait faire des économies à l'époque, eh bien on revendait les chandelles, les morceaux, les bouts de chandelle pour... ça faisait partie des petits privilèges que tel ou tel serviteur, valet ou autre avait, pouvait revendre ce qu'il y avait sur la table du roi, pouvait revendre les chandelles, donc on faisait brûler les chandelles seulement d'un tiers, et puis on revendait le reste à l'extérieur. Ça faisait une gratification supplémentaire pour la personne qui avait ce droit-là. À côté de cette gouvernante, il y a donc des sous-gouvernantes qui sont donc aussi de nobles dames, la baronne de Mako, qui est issue d'une vieille famille irlandaise qui avait éduqué les petites filles de Louis XV, hein, donc Madame Élisabeth aussi, sa fille, la marquise de Soucy, sa belle-sœur, la comtesse de Soucy, qui viendra par la suite. Donc vous voyez, tout ça, c'est des nébuleuses familiales, hein, on se coopte et on hérite des charges en famille. Alors à côté de ça, cette princesse, cette petite princesse qui vient juste de naître, a un aumônier, un médecin, enfin plusieurs aumôniers, même, un médecin, un chirurgien, un secrétaire de la chambre, un argentier, un coiffeur. Coiffeur comme notre président de la République, mais enfin, elle, je ne sais pas si elle le paye autant. Un porte-manteau ordinaire, une blanchisseuse, une servante de cuisine, des valets de chambre, des garçons de chambre, des portefeuilles, des fourriers, un porte-chaise d'affaires. Alors ça, c'est la personne qui porte le pot de chambre, hein, la chaise d'affaires. Bon, pour le moment, elle n'en a peut-être pas encore besoin, mais ça viendra. D'autant qu'elle a aussi des gens dont elle n'aura pas besoin avant très longtemps, comme un instituteur, des maîtres d'écriture, des maîtres de la langue italienne, de la danse, du dessin, des mathématiques, du piano, enfin, etc. Tout ça, c'est des gens qui sont, je dirais, payés pour plusieurs années à ne rien faire et attendre que, voilà, que leur élève grandisse et puisse bénéficier de leur savoir. En attendant, elle est surtout entourée de sa nourrice, qu'on appelle la nourrice du corps, au sens propre du terme, qui s'appelle Julie Rousseau-Laurent, plus d'autres qui sont des nourrices retenues, qui sont, comme je disais tout à l'heure, des nourrices supplétives en cas de manque de lait de la première nourrice. Elle a aussi une remeuse qui est chargée de remuer son berceau, deux femmes de chambre, deux premières femmes de chambre, plus une dizaine de femmes de chambre ordinaires. Vous imaginez cette espèce de grouillement autour de ce pauvre enfant. Toutes les nuits, elle est gardée jusqu'à l'âge de 3 ans par une femme de garde qui vérifie qu'elle dort bien. Et tout ça, finalement, a des conséquences assez néfastes sur l'éducation, sur la bonne humeur ou la bonne santé de l'enfant. Parce que, bien sûr, tous ces gens autour qui grouillent, avec cette étiquette qui interdit de faire ce qu'il doit un autre ou ce qu'un autre doit faire, fait que tout ça n'est pas très efficace. C'est ce que raconte d'ailleurs Edmond Barbier, un avocat au Parlement en 1750, qui expliquait déjà: c'est un miracle à la cour d'élever un prince ou une princesse. La nourrice n'a d'autre fonction que de donner à téter à l'enfant. Quand on le lui apporte, elle ne peut pas le toucher. Il y a des remueuses préposées pour cela, mais qui n'ont pas d'ordre à recevoir de la nourrice. Il y a des heures pour remuer l'enfant, 3 ou 4 fois dans la journée. Si l'enfant dort, on le réveille pour le remuer. Si après avoir été changé, il fait dans ses langes, il reste ainsi 3 ou 4 heures dans son ordure. C'est parce que c'est pas l'heure. Si une épingle le pique, la nourrice ne doit pas l'ôter. Il faut aller chercher, attendre une autre femme, l'enfant crie, c'est une vraie misère que toute cette cérémonie. Vous voyez, tout ça, finalement, c'était pas si drôle pour cela que cela, pour d'être un enfant royal à la cour de Versailles avant la Révolution. Bien sûr, toutes ces charges, comme je disais, sont très lucratives. Elles sont chères à acquérir. Hein. On paye pour les avoir, mais ensuite, on essaye de se rembourser, en nature et en gratification diverses et variées. Il faut bien dire que, justement, c'est l'époque où on commence, Louis XVI va s'attacher à ça, à commencer à considérer que toutes ces dépenses de cour sont vraiment très, très excessives, et va, à partir de 1781 en particulier, au moment de la naissance du dauphin, va faire vraiment des réductions drastiques et va faire des coupes dans le budget pour essayer de limiter au maximum ces dépenses qui sont tout à fait excessives. Il faut voir aussi d'ailleurs qu'à chaque... Alors bien sûr, comme je disais, il y avait des... À chaque naissance, donc la naissance de Marie-Thérèse, pour le moment, on offre à l'enfant ce qu'on appelle une layette. La layette, c'est pas uniquement, comme aujourd'hui, le linge, les vêtements, etc., mais c'est tout un attirail d'objets nécessaires au nouveau-né, nécessaires plus ou moins d'ailleurs, des lits, des paravents, une vaisselle d'argent, des draps, des ustensiles de cuisine, de toilette, des objets liturgiques, etc., qui sont... offert, là en particulier c'est un coffret qui est offert par la ville de Paris au moment de la layette de Marie-Thérèse, qui est la layette du dauphin, qui se trouve au château, et qui donc c'est cette layette, entre guillemets, qui coûte des sommes faramineuses, est renouvelée au 3e anniversaire de l'enfant, puis à nouveau au 7e, puis à nouveau à 12 ans. Et à chaque fois que on renouvelle cette layette, eh bien, la gouvernante des enfants de France peut prendre les objets qui l'intéressent, donc ça lui fait une gratification supplémentaire. Donc c'est à chaque fois l'occasion de dépenses nouvelles, etc. Marie-Antoinette, donc, va elle aussi essayer de faire bouger un petit peu cette étiquette très très rigide,
à la dévéléité dans ce domaine, comme on sait, c'est souvent un peu dévéléité chez Marie-Antoinette. Elle est en particulier très influencée par la mode de l'époque, et en particulier par Jean-Jacques Rousseau, elle a lu les Mille, hein, bien sûr, ce fameux traité d'éducation de Jean-Jacques Rousseau, qui s'y connaissait en éducation d'enfants, dans la mesure où tous les enfants qu'il a eus les a placés aux enfants perdus, donc aux enfants trouvés plutôt. Donc, effectivement, il pouvait faire un traité de pédagogie. Hein, souvent, les pédagogistes ou les pédagogues sont souvent des gens qui restent beaucoup dans la théorie. Donc, en tout cas, elle est imbibée, je dirais, de ces théories-là. Elle veut épargner au maximum à ses enfants, en particulier à sa fille, ce cérémonial un peu excessif qui entoure les enfants de France. Donc, elle, comme je disais tout à l'heure, elle essaye d'élever sa fille en lui ôtant toute image de grandeur, hein, avec ce qu'on appelle le retranchement des étiquettes, hein, essayer de lui faire avoir une vie la plus normale possible. Elle va la voir plusieurs fois dans la journée, ce qui est un peu nouveau finalement. Elle est finalement plus proche de ses enfants que pouvaient l'être les femmes de la haute noblesse de cette époque, ou de la haute aristocratie. En même temps, c'est un petit peu comme quand elle joue à la bergère. On ne peut pas dire qu'elle s'occupe non plus de ses enfants d'une manière extrêmement efficace. Hein. C'est plus, elle aime bien être avec eux, s'amuser avec eux, les dorloter, etc., mais pas, point trop d'enfants. Donc, comme je disais tout à l'heure, très rapidement, après la naissance de Marie-Thérèse en 78, elle veut réparer sa sottise. Il faut qu'elle ait un dauphin. Sa mère, Marie-Thérèse, l'impératrice, lui écrit lettre sur lettre en lui disant « Il nous faut maintenant un dauphin. Elle la bombarde en permanence. Et hélas, pour Marie-Antoinette, elle fait une fausse couche au cours de l'été 79, donc elle est à nouveau enceinte l'année suivante, et finalement, en 81, donc elle va se retrouver enceinte, et elle va accoucher donc du dauphin, du fameux dauphin tant attendu. Alors, cette fois-ci, on a quand même, Louis XVI a quand même tiré les leçons du bazar de la première fois, de la première naissance, et va faire fermer les portes quand même de la chambre pour ne laisser entrer que... Alors, ce que j'aime bien, c'est quand on fait la liste du peu de monde qui sont à l'intérieur de la chambre, ça reste quand même pas mal. Pendant le travail, donc pendant l'accouchement, il n'y avait dans la chambre que Madame de Lamballe, Monsieur, le Comte d'Artois, mes tantes, c'est Louis XVI qui parle, hein, mes tantes, Madame de Chimay, Madame de Mailly, Madame d'Ossin, Madame de Tavannes et Madame de Guéméné, qui allaient alternativement dans le salon de la paix qu'on avait laissé vide. Dans le grand cabinet, il y avait ma maison, celle de la reine, les grandes entrées et les sous-gouvernantes qui entrèrent tout au moment des dernières douleurs et restèrent dans le fond de la chambre sans intercepter l'air. Vous imaginez, c'est grand la chambre de la reine, enfin quand même. Après que la reine a accouché, on a porté mon fils dans le grand cabinet où il a été lavé et habillé et où je l'ai remis entre les mains de Madame de Guéméné, gouvernante. Donc vous voyez, c'est un peu plus intime que la première fois, mais enfin ça reste quand même assez ouvert à tout vent. Donc le dauphin naît le 22 octobre 1781 dans la même chambre que sa sœur, dans la matinée. Il est prénommé Louis-Joseph Xavier François. Alors, dans un premier temps, Marie-Antoinette ne sait pas quel est le sexe de l'enfant, elle n'ose le demander, terriblement angoissée à l'idée que ça pourrait être une fille à nouveau. Elle dit, vous voyez, je suis ça, elle dit au roi, vous voyez, parce que le roi assistait très très... Alors, aussi, bien sûr, à la naissance, et le roi, finalement, lui dit, Madame, vous avez comblé mes vœux et ceux de la France, Monsieur le Dauphin demande à entrer. Alors, donc, là, tout le monde est heureux, tout le monde se congratule. C'est la première fois qu'un dauphin naît à Versailles depuis 1729, depuis le premier fils de Louis XV. La joie est extrême à travers le palais. Le baptême a lieu aussi immédiatement, comme pour Marie-Thérèse. Donc on lui donne les prénoms de Louis-Joseph, Xavier, François, qui sont, là voilà, c'est une gravure populaire de l'époque un peu naïve qui montre le baptême, bien sûr. On a du mal à reconnaître la chapelle du palais, mais enfin bon, c'est une vision un petit peu d'épinal. Donc on lui a prédonné ses prénoms, Louis-Joseph, Xavier, François, qui sont exactement les mêmes prénoms que son oncle défunt, le duc de Bourgogne, qui était le frère aîné de Louis XVI, hein, et qui était mort à l'âge de 10 ans de la tuberculose, qui est tout de même un patronage un peu glauque pour cet enfant, qui lui-même va mourir, comme on va le voir, aussi de la tuberculose, mais disons qu'on l'a placé sous l'égide d'un prince voilà, qui avait eu un destin assez funeste. Il est aussi son acte de naissance, son acte de baptême est aussi placé comme le précédent dans le registre de l'état civil, enfin dans le registre paroissial de Notre-Dame de Versailles. Et c'est amusant, il est entre le précédent, c'est l'enfant, le fils ou la fille d'un aide de la petite écurie, donc un homme vraiment très pauvre, et puis ensuite il y aura la fille ou le fils d'un cordonnier. Donc, vous voyez, on a vraiment une espèce d'égalité dans au niveau. Il est un chrétien parmi d'autres, il entre parmi la grande famille des chrétiens à égalité avec les autres. Immédiatement après le baptême, le roi lui donne le cordon du Saint-Esprit. On le voit sur ce tableau d'époque, où on voit le roi lui remettre le cordon du Saint-Esprit parce qu'il a voulu attendre le baptême, parce qu'il devait être chrétien d'abord. Hein, donc il ne reçoit l'ordre qu'ensuite. Ensuite, il y a un tédéum donc à l'église de Notre-Dame de Versailles. Et puis alors à Paris, évidemment, la nouvelle va se répandre. Là, on a aussi une scène, enfin voilà, une autre gravure d'époque montrant le roi apportant le cordon du Saint-Esprit. Vous voyez d'ailleurs que Louis XVI n'est pas représenté comme quelqu'un de ventripotent non plus. Voilà, c'est avant la Révolution. À Paris, bien sûr, il va y avoir 8 jours de fête à tout casser, si l'on peut dire. On va distribuer, alors il y a des fontaines de vin dans les rues, il y a des bals populaires, il y a des distributions de charcuterie, enfin de pain, etc. Donc c'est vraiment des feux d'artifice. Voilà. On imagine qu'à 8 ans de la Révolution et à 12 ans de l'exécution de Louis XVI, on a cette ferveur populaire intacte qui existe chez les Parisiens, qui sont vraiment très heureux de la naissance de ce futur, de celui qu'ils pensent être leur futur roi. Mais à côté de ça, il y a quand même la popularité de la reine est déjà extrêmement faible, hein, parce que normalement la reine doit venir faire ses relevailles à Paris, c'est une tradition, c'est-à-dire qu'après s'être remise de ses couches au bout de quelques semaines, elle est censée venir à Paris pour remercier donc les Parisiens et surtout d'aller à Notre-Dame, voilà, en prière, à la cathédrale Notre-Dame. Et ces relevailles, eh bien, les Parisiens doivent les financer, les festivités. Et donc, ils se font vraiment tirer l'oreille. Et finalement, Marie-Antoinette dit, mais est-ce qu'ils vont attendre que le dauphin soit capable de venir danser au relevail de sa mère pour nous inviter. Enfin voilà, finalement ça a lieu, mais on voit très bien que Marie-Antoinette est déjà très très mal vue des Parisiens. Il y a énormément de libelles, de pamphlets, comme je le disais tout à l'heure. Enfin, ça ne fait que s'amplifier au fur et à mesure des années, parce qu'on a compris que c'était le maillon faible de la monarchie. Qu'en tapant sur elle, on atteignait le roi aussi indirectement. Il y a en particulier une petite chansonnette qui dit, toujours l'idée que, voilà, que le dauphin n'est pas le fils de Louis XVI, hein, et s'adresse au roi. Donc, Louis, si tu veux voir, bâtard, cocu, putain, regarde dans ton miroir la reine et le dauphin. Donc, ça vous donne le ton des chansonnettes de l'époque. Le 8 novembre, donc. 3 semaines après la naissance, on sait que le petit prince faisait quand même 6,3 kg, ce qui était quand même 13 livres, donc quand même déjà un enfant qui avait bien profité, et 22 pouces, c'est-à-dire à 59,5 cm de taille. Il a pour nourrice une certaine Geneviève Poitrine, alors on ne sait pas vraiment si c'est un... Là, vous voyez, là, c'est le relevaille de la reine aussi, une petite gravure de l'épaule, voilà. Soit image censée représenter Madame Poitrine, qui est donc une paysanne de Sceaux, femme d'un jardinier de Sceaux, qui a été sélectionnée pour la qualité de son lait pour donc abreuver le jeune dauphin. Elle lui donne la tétée en public, elle lui chante, dit-on, la fameuse chanson de Malbrook sans la tanker. Et du coup, comme elle montre volontiers ses seins, il y a une sorte de mode public qui va se développer chez les dames à la mode, les élégantes, de montrer leurs seins pratiquement jusqu'à la pointe des mamelons. On crée d'ailleurs aussi une couleur, ça a tout été sujet à création de mode à l'époque, une couleur caca dauphin, qui est une espèce de marron voilà, qui est inspirée de ce que vous imaginez. Et puis, comme la reine a perdu un petit peu de cheveux au moment de l'accouchement, son coiffeur, le fameux Léonard, crée une coiffure basse qu'on appelle le coiffure à l'enfant, bon, qui cache ça, et donc toutes les élégantes vont bien sûr imiter la reine en se faisant coiffer comme cela. La fameuse Madame Poitrine, d'ailleurs, entre parenthèses, n'est pas aussi efficace que ça, puisque très très rapidement, au mois de décembre, donc 2 mois plus tard, elle se trouve qu'à sec, si on peut dire, et donc on est obligé de faire appel à des suppléantes. Si la reine, comme je disais, va s'intéresser à ses enfants, mais de manière un petit peu, la manière dont elle s'intéressait aux boutons et à la bergerie du hameau, le roi, lui, est assez proche et très proche de ses enfants. Et il veut leur inculquer aussi une certaine simplicité, comme il a lui-même d'ailleurs. Il insistera par exemple pour que le dauphin ne soit pas appelé monseigneur, mais simplement monsieur le dauphin, c'est déjà pas mal. Mais bon, en tout cas, pas de monseigneur. Et puis, quand ils vont grandir, donc lui et puis son petit frère qui va naître ensuite, il va s'intéresser à leurs études, il va leur faire fabriquer un globe terrestre qu'on voit d'ailleurs toujours, on l'a vu tout à l'heure sur la photo, un grand globe terrestre dans l'appartement des enfants, parce que Louis XVI était passionné de navigation et de géographie. Il leur fait éditer pour eux un certain nombre d'auteurs classiques, donc Adouzou Delphini, comme on dit, à l'usage du dauphin. Et puis, même vers plus tard, on raconte que lorsque le dauphin n'était pas encore trop malade, il l'avait un jour laissé à côté du château de Rambouillet, alors bien sûr surveillé quand même discrètement par des serviteurs, mais pour qu'il se retrouve lui-même et qu'il puisse rentrer au château en s'orientant lui-même. Enfin bon, il essaye d'en faire de leur donner le goût de la. Voilà, aussi de l'aventure et et de l'effort physique. Vous savez, Louis XVI était, contrairement à ce qu'on dit, quelqu'un qui était extrêmement fort physiquement, qui chassait pratiquement tous les jours et qui donc était un homme qui se dépensait énormément. C'est d'ailleurs son drame, ça va être quand il pourra plus dépenser après le moment de la Révolution, qu'il sera enfermé à Paris puis ensuite au Temple. Évidemment, c'est quelque chose qu'il supportera mal. Le petit dauphin va très vite, Louis-Joseph, donc, va très vite être, entré en politique, puisque dès le 20 mai 1782, il a 7 mois, il va assister à une entrevue avec le tsarévitch Paul, le futur tsar Paul Ier, qui va, fils de Catherine II, qui vient visiter Versailles sous le pseudonyme de Comte du Nord. Donc le tsarévitch le prend dans ses bras, et lui dit « J'espère que vous vous souviendrez de cette rencontre plus tard dans vos relations avec la Russie. » Marie-Antoinette est souvent au Trianon à ce moment-là, et donc elle va installer à ce moment-là ses enfants au Grand Trianon, au cours de l'été 1782, dans les appartements du Grand Trianon, et elle va essayer d'être très proche, je dirais, de s'intéresser particulièrement à sa fille Madame Royale, qu'on surnomme Mousseline la Sérieuse. Alors voilà, tableau bien connu de Madame Vigée Lebrun avec le premier dauphin et sa sœur aînée, Madame Royale, mais aussi la Sérieuse. Pourquoi l'appelle-t-on comme ça? C'est le comte d'Artois qui lui a donné ce nom, parce qu'elle a des cheveux blonds vaporeux et qu'elle a toujours un air assez sérieux, c'est même un peu une certaine morgue, hein, elle est un peu hautaine. Hein, et donc, la reine va s'employer justement à contrebattre ce caractère, cette hauteur qu'elle a sans doute héritée, je dirais peut-être des Habsbourg, de sa grand-mère, etc. Par exemple, un jour, là, un enfant fait tomber un éventail, et puis elle dit à sa nourrice de le ramasser comme ça. Alors bien sûr, la reine lui dit non. La nourrice repose l'éventail par terre et elle dit à Marie-Thérèse de ramasser elle-même cet éventail. elle lui fait porter des vêtements simples et pratiques, hein, dans la mode de l'époque, pas sur ce tableau-là, parce que là, ça a l'air d'être quand même de très beaux vêtements, mais bon, habituellement, elle est plutôt dans des vêtements qui lui permettent de jouer et d'être à l'aise. Madame Royale donc, va être très vite, à la différence de sa mère qui savait à peine lire et écrire à 12 ans, elle va aimer lire très tôt, elle va avoir une belle écriture, une excellente mémoire, et puis très vite elle se mettra au piano, enfin, etc. Donc c'est une petite fille intelligente, mais qui est parfois un petit peu hautaine. Et sa mère s'attache beaucoup à combattre cela. En septembre 1782, Marie-Thérèse, donc la première, va subir ce qu'on appelle la variolisation. Alors la variolisation, ce n'est pas la vaccination, c'était une technique plus ancienne et plus dangereuse qui consistait non pas à utiliser, vous savez, pour la vaccination, on utilise une variole, la variole des bovines qu'on appelle la cowpox, hein, qui est la variole des vaches, qui est pratiquement anodine pour les humains, mais qui permet de se prémunir contre la variole humaine. Là, dans le cas de la variolisation, c'était un petit peu plus hard, on pourrait dire, comme technique, puisque ça consistait à prendre du pus de varioleux qui avait surmonté la maladie, donc qui était sauvé, mais on en mettait donc de ce pus sur une plaie, enfin on faisait une scarification sur le bras, bon, ce qui fait que la personne en question développait une vraie variole, mais en principe atténuée, et donc ce qui lui permettait de s'immuniser, mais enfin après avoir été quand même malade pendant une quinzaine de jours, donc d'une véritable variole, et avec quand même 1 ou 2% de risque d'y passer. Donc c'était une méthode un peu hasardeuse, mais bon, qui était quand même intéressante dans la mesure où la variole était vraiment, avec la tuberculose, la maladie qui décimait peut-être un quart des enfants de l'époque. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, sur un enfant qui naît, enfin sur 4 enfants à la naissance, vous ne voulez plus qu'un adulte à 20 ans. Hein. Et la moitié, vous avez un premier quart qui meurt dans la première année et un deuxième quart qui va mourir entre 1 an et 20 ans. Donc on a donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de mortalité infantile. Cette variolisation, le roi lui-même et ses frères, les princes d'Orléans, enfin tous les grands seigneurs ont donné l'exemple en se faisant varioliser précédemment. On peut se souvenir que Louis XV est mort de ça, hein. Donc c'est quelque chose qui a été qui a bien marqué la famille. 400 000 Européens par an meurent de la variole à l'époque. C'est une maladie qui a complètement disparu aujourd'hui, hein. C'est quand même assez étonnant. Marie-Thérèse va être variolisée en septembre 1782. Les choses se passent bien, mais elle reste, donc elle est au château de la Muette, hein, à Paris, qui n'existe plus maintenant, mais donc elle va mettre une quinzaine de jours à se remettre. Après cette variolisation, la princesse de Guéméné est obligée de céder sa place. Parce que son mari, le prince de Guéméné, a fait une faillite retentissante, et donc elle est emportée dans cette honte familiale, et donc elle doit quitter sa place, et la reine en profite pour mettre comme gouvernante des enfants de France sa meilleure amie, la duchesse de Polignac, qui donc va être un petit peu le bras agissant de la reine auprès des enfants, puisqu'elle est très très proche et la favorite de la reine. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs à voir, c'est qu'au moment on passe de la princesse de Guéméné à la duchesse de Polignac, la princesse de Guéméné fait un certificat médical, on fait passer les enfants, donc en l'occurrence il n'y en a que deux pour le moment, Marie-Thérèse et puis son frère le dauphin, devant des médecins pour dire ils sont en bonne santé, je les remets entre vos mains en bonne santé. Et quelques semaines plus tard, la duchesse de Polignac fera une contre-visite pour vérifier que les enfants qu'on lui remet sont bien en bonne santé, donc la confiance ne régnait pas vraiment. D'autant que les médecins étaient assez peu qualifiés d'ailleurs à l'époque pour dire si quelqu'un était en bonne santé, donc finalement c'était pas très utile. Mais bon. Marie-Antoinette, à ce moment-là, lorsque la duchesse de Polignac, à l'automne de 1782, donc la petite a pratiquement 4 ans, veut prendre en main davantage l'éducation de sa fille. Elle va l'avoir beaucoup plus auprès d'elle, et elle va la placer dans un autre appartement, d'ailleurs, qui est l'appartement de Madame Sophie, qui était une fille de Louis 15, qui est morte quelques mois auparavant. Et pendant un an, elle va, je dirais, la voir à l'œil comme cela, sous son regard direct, et elle va s'employer à modeler ce caractère rétif de l'enfant la rendre un peu plus aimable et un petit peu plus charitable. D'autant qu'il y a une anecdote qui est assez révélatrice du caractère entier de cette petite Marie-Thérèse, c'est qu'un jour, on dit devant elle que la reine a failli se tuer, je ne sais pas, dans ce tourment de cheval, je ne sais plus exactement. Et Marie-Thérèse, qui a 4 ans, dit « cela m'eût été égal ». Alors, on lui demande « mais vous savez, ça veut dire que la reine serait morte ?» Alors on, oui, mais vous savez ce que ça veut dire. Oui, mais ça veut dire que je ne la verrai plus, et comme ça je pourrais faire toutes mes volontés, sans, voilà, évidemment la reine est en pleurs, etc. Mais bon, ça vous montre un peu le caractère de cette... Elle dit, je préfère mon père d'ailleurs, parce qu'il est plus attentif, quand la reine me fait marcher avec elle, elle s'en va dardard, je ne savais pas que l'expression existait à l'époque d'ailleurs, et donc je suis obligé de courir derrière elle, enfin voilà. De son côté, le petit dauphin, lui, a 2 ans, et à 2 ans, on a une description donc, de ce petit Louis-Joseph qui va mourir, hélas, très très tôt. On a une description donc, dans les anecdotes du règne de Louis XVI, Nougaret brosse ce portrait à 2 ans. Monsieur le dauphin, à l'âge de 2 ans, était d'une jolie figure. Il articulait très bien et répondait avec intelligence aux questions qu'on lui faisait. Pendant qu'il était au château de la Muette, tout le monde avait la liberté de le voir. Ayant reçu devant le public une boîte de bonbons que lui envoyait la reine avec son portrait dessus, il s'écria « Ah, voilà le portrait de maman !» Monsieur le dauphin était habillé très simplement avec un habit de matelot. Rien ne le distinguait d'un enfant ordinaire que la croix de Saint-Louis, le cordon bleu et l'ordre de la toison. Bon, c'est déjà un truc qui se voit quand même. Décorations qui sont la tribu distinctive de sa naissance. Donc la reine, l'année suivante, en 1783, fait une nouvelle fausse couche, mais elle est à nouveau enceinte en 1784. Alors c'est vrai qu'on raconte que, au moment où elle est enceinte donc, de celui qui sera le futur Louis XVII, hein, de son deuxième fils, Louis-Charles, on dit, est-ce que ça ne serait pas le fils de Fersennes ? Donc là, on voit Marie-Antoinette avec ses 2 premiers enfants. De Fersennes, vous savez, Axel de Fersennes, le colonel suédois, de retour d'Amérique, depuis 1 an, était à Versailles au moment de la conception de l'enfant en juin 1784. On sait qu'il était très apprécié de la reine. De là à, je dirais, à en faire un amant de la reine, personnellement, comme je disais tout à l'heure, ça me paraît très peu probable dans la mesure où la vie d'une reine de France à la cour de Versailles, qui était entourée quand même par l'étiquette, d'une manière extrêmement précise, elle n'était jamais seule, hein. Il y avait toujours quelqu'un dans sa chambre, etc. Donc il aurait fallu qu'elle bénéficie de complicités multiples. En plus, tout le monde était là pour surveiller tout le monde, hein. Bon, c'était un véritable panier de crabes, en quelque sorte, hein. Donc ça paraît peu probable qu'elle ait pu et qu'elle ait voulu, même d'ailleurs, parce que comme je disais aussi, on la voit mal, il semble que Marie-Antoinette n'avait pas un tempérament, je dirais, érotique très, très, très développé. Et donc, bon, c'est plus dans le domaine du romantisme ou du romanesque que son amour pour Fersennes a pu se développer, surtout par la suite, au moment des malheurs de la Révolution, où il a été un peu cette espèce de chevalier servant qui est venu à Paris pour aider la famille royale. Bon, là, ça paraît tout à fait peu crédible. Même Louis XVIII, Louis XVIII plus tard, et pourtant Louis XVIII n'était pas tendre pour sa belle-sœur, dira qu'elle a été probablement imprudente, mais jamais criminelle. Donc, voilà. Évidemment, on ne le saurait qu'en faisant une analyse ADN sur Fersennes, si je crois qu'on sait où il est enterré maintenant. Je ne pense pas que ça donnerait... Ou alors, on pourrait aussi, éventuellement, sur le cœur de Louis XVII, essayer d'avoir le chromosome Y et le chromosome masculin. Pour le moment, on n'avait pas réussi il y a 15 ans, mais les techniques ayant évolué, peut-être qu'on pourrait le trouver aujourd'hui. Je referme ma parenthèse. Donc, la voici enceinte d'un deuxième fils qui va naître le dimanche de Pâques, 27 mars 1785. Alors, bien sûr, comme à chaque fois... Marie-Antoinette essaye de jouer un peu à cache-cache avec les courtisans, parce que jusqu'au dernier moment, elle essaye de cacher qu'elle a des douleurs pour ne pas déclencher l'espèce de ovari et de flux vers sa chambre pour assister à l'accouchement. Donc, elle garde le silence, elle essaye de garder le silence le plus tard possible, mais bien sûr, au bout d'un moment, donc, elle va accoucher. Il y a une heure de travail seulement, c'est assez rapide. Le roi assiste à cette naissance. On dit qu'il a ressenti à ce moment-là la joie la plus pure et la plus attendrissante. À nouveau Tédéum, enfin bon, tout ça se passe un peu comme pour le premier dauphin, c'est d'ailleurs ce que le roi va dire hein, dans son journal. À la chapelle, donc le Tédéum avec une musique qui a été composée par le surintendant de la musique, François Girouste. Je ne sais pas si on dit Giroux ou Girouste, peut-être que c'est ce que je connais. Suivi du baptême, enfin tout ça se passe toujours de la même manière. Le baptême, toujours le cardinal de Rohan, qui n'est plus là pour très longtemps, hein, puisque le cardinal de Rohan, je vous rappelle, a été ensuite très rapidement impliqué dans cette fameuse affaire du collier, et donc va être jeté en prison à la Bastille et ignominieusement chassé de Versailles. Et puis on inscrit donc la naissance de ce duc de Normandie, puisque c'est le titre du duc de Normandie qu'on va lui donner, dans le registre paroissial de Versailles, entre le fils d'un sieur de Long, donc d'un bûcheron en fait, et la fille d'un manouvrier, c'est-à-dire d'un ouvrier agricole sans terre. Vous voyez, c'est assez amusant à chaque fois de voir qu'on a ces enfants qui sont appelés à être des princes puissants et qui finalement, dans les registres paroissiaux, sont placés à l'égal de n'importe quel enfant du peuple. Duc de Normandie, c'est un titre original qui n'avait pas été porté depuis Charles, frère de Louis XI, donc à la fin du Moyen-Âge. On peut penser, je pense que c'est assez évident, que Louis XVI a voulu en fait faire une petite pique en direction de l'Angleterre, hein, puisqu'il a été en concurrence avec l'Angleterre et qu'il essayait de remonter la Paris française et de prendre sa revanche sur l'Angleterre, avec l'histoire du Canada, de l'Inde, etc. Et qu'en donnant ce titre de duc de Normandie, qui était aussi revendiqué par les rois d'Angleterre, il voulait, je pense aussi, d'autant qu'il va aller se faire un voyage en Normandie quelques mois plus tard, qui sera le seul voyage d'ailleurs pour lequel qu'il fera dans son règne, avec celui de Reims, et puis celui plus tard de Varennes, évidemment. Alors cet enfant donc, qui n'est pas le dauphin, qui est donc le duc de Normandie pour le moment, a aussi une maison avec 43 personnes, vous voyez, ça augmente encore le nombre des gens qui sont autour des enfants de France, hein. 43 personnes, on avait 80 pour la première fille, mais enfin j'imagine qu'il doit y avoir des personnes qui sont peut-être en commun avec tous les enfants, donc du coup voilà, on a besoin que de 43 pour lui. Et pendant ce temps-là, Marie-Antoinette va continuer à faire baisser son caquet un petit peu à Marie-Thérèse, en particulier elle l'a fait dîner avec une jeune paysanne de son âge et elle lui fait servir à table cet enfant, voilà, pour lui montrer qu'elle doit aussi servir les autres. Le dauphin, le petit dauphin, donc Louis-Joseph, qui commence à grandir, est très vite amené en visite à l'hôpital des enfants trouvés à Paris, parce qu'on veut lui montrer, la reine veut lui montrer qu'il y a des enfants qui sont beaucoup plus malheureux qu'eux, et que, voilà, qui voient que tout le monde ne vit pas au château de Versailles, même si c'était pas aussi drôle que ça, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, enfin bon. Marie-Antoinette fait donner une bourse d'aumône, fait donner une bourse à sa fille pour qu'elle puisse donner elle-même des aumônes aux pauvres. Le 1er janvier 1784, c'est un hiver particulièrement rude. Il y a beaucoup de pauvres qui souffrent du froid, etc. Et donc, pour donner une leçon de charité à ses enfants, donc à ses deux premiers enfants, elle fait venir des jouets de Paris par un marchand, comme d'habitude, qu'elle fait exposer à Versailles. Elle les montre à ses enfants et elle leur dit « Mais cette année, vous ne pourrez que les voir. Je ne peux pas vous les offrir parce que l'argent qui était destiné à acheter ces jouets, on les a utilisés pour acheter des couvertures pour les malheureux qui ont froid. Donc, cette année, vous n'aurez pas de jouets, vous n'aurez que le plaisir de les voir. » Donc voilà, c'est une manière un peu de sensibiliser les enfants au malheur des autres. Il faut un peu relativiser, parce qu'il y a aussi quand même des beaux cadeaux, en particulier ce magnifique carrosse qu'on va faire pour le dauphin. Un carrosse unique, recouvert de glace, hein, transparente, tiré par des poneys. Enfin bon, il y a quand même des objets quand même voilà, qui sont des objets de luxe plus que des jouets, si l'on peut dire. Marie-Thérèse, on sent, elle n'a que maintenant 6-7 ans, on commence déjà à penser à la marier. Alors on avait pensé au futur Gustave IV de Suède, à son cousin Germain François de Naples, au petit Louis-Philippe d'Orléans qui sera le futur Louis, le roi Louis-Philippe, et puis surtout à son cousin Germain Louis-Antoine, duc d'Angoulême, qui est donc le fils du comte d'Artois, et qu'elle épousera finalement, finira par épouser après la... Enfin, après la Révolution, quand ils seront en émigration. Donc les années passent, une sorte de famille un peu bourgeois, il y a un peu un bonheur bourgeois que qu'affectionne particulièrement Louis XVI. Voilà, là, Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est un petit médaillon dans une collection privée, qui sont assez jolis. Là, il a déjà un peu grossi. Voilà, là on a l'acte de naissance donc de. Attendez. On peut agrandir. On a l'acte de naissance de. Donc, toujours avec les. Vous voyez, avec les signatures des. Voilà. Voilà, ça c'est celui de Louis Charles. Hein. Donc voilà, c'est l'acte de naissance de Louis Charles. Vous voyez, toujours sur le même modèle. Louis-Charles de France, hein, parce que le nom de famille des enfants du roi, apparemment, les rois, ils ne sont pas Bourbons, ils sont Bourbon, c'est le nom de la dynastie, mais le roi il n'avait pas de nom de famille, si vous voulez, il s'appelait de France, hein, tout ça. Donc les enfants sont de France, voilà, simplement. Louis-Charles de France, très haut et très puissant, c'est amusant pour un bébé, hein, toujours très haut et très puissant, c'est bien, voilà. Et toujours les mêmes signatures que précédemment. Donc voilà le petit médaillon. Alors, ce qui est assez difficile sur les portraits d'avant la Révolution entre Louis Charles et Louis Joseph, son frère aîné, c'est qu'on a souvent tendance à confondre l'un et l'autre, dans la mesure où Louis Charles, qui va devenir Louis XVII, enfin en prison en tout cas, va avoir une destinée posthume importante avec les histoires des faux dauphins, etc. On a tendance à attribuer à Louis XVII à la fois les actes qu'ont pu faire son frère aîné, parce que parfois, il faut voir quand même que Louis Charles n'a que 4 ans au moment de la Révolution, donc parfois on lui attribue des traits d'esprit ou des actes qui sont probablement le fait de son frère aîné, et des portraits également qui sont les portraits de son frère aîné. Là, apparemment, celui-là, ce serait Louis Charles, bon, sans trop de garantie. Alors là, on arrive à la suite. Donc, ce bonheur bourgeois, si vous voulez, va être un peu une parenthèse dans la famille royale à la veille de la Révolution, alors que les nuages s'accumulent au-dessus de la monarchie. En février 86, donc, Marie-Antoinette va se retrouver enceinte à nouveau. On a souvent, quand on se dit combien Louis XVI a eu d'enfants, les gens qui savent le moins vont dire 2, parce qu'ils se souviennent de Marie-Thérèse, Madame Royale, et puis de Louis XVII. Bon, ceux qui savent un peu plus, ils vont dire 3, parce qu'ils se souviennent qu'il y avait un premier dauphin qui est mort au moment de la Révolution. Et puis, si on sait un peu plus, on sait qu'ils sont 4, parce qu'il y a une petite fille, finalement, donc, qui s'appelait Sophie. Hélène Béatrix, qui va naître donc en 1786, 9 juillet 1786, et qui va hélas mourir au bout de 11 mois. Donc c'est pour ça que très souvent elle est oubliée dans la liste des enfants de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Elle dit, Marie-Antoinette d'ailleurs, quand elle se rend compte qu'elle est enceinte en février 86 à nouveau, dit « je crains bien à présent ». Elle dit, je ne savais pas que j'étais enceinte jusqu'à maintenant, mais je crains bien à présent qu'il ne soit soit tout à fait certain. Alors je crains, ça veut dire que, c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, être enceinte au XVIIIe siècle, c'était quand même un peu un défi permanent, c'est-à-dire qu'on avait de grands risques à chaque fois d'y laisser sa vie. En plus, quand on accumulait le nombre au bout d'un moment, plus on avait d'enfants, plus peut-être les risques pouvaient être grands. Donc, en plus, elle écrivait, là, en l'occurrence, à une une princesse de Mecklembourg, je crois, dont la sœur venait justement de mourir en couche. Donc il faut voir que la naissance au XVIIIe siècle est quand même entourée de risques et de périls qui n'existent plus aujourd'hui. Péril pour la mère, péril pour l'enfant. On va le voir d'ailleurs avec cette petite, donc Marie, cette petite Sophie, Hélène, Béatrix. Voilà, ça c'est son acte de naissance, son acte de baptême, hein, à nouveau. Voilà, Sophie, Hélène, Béatrix. Alors vous voyez, souvent on se pose la question, est-ce que c'est Béatrice ou Béatrix? Alors dans certains livres on met Béatrice. Donc il faut toujours revenir au document pour faire de l'histoire. Et sur le document, l'acte de naissance, de l'acte de baptême, on a Béatrix. Mais alors on voit que ça a été gratté et qu'il devait y avoir Béatrix. Donc probablement que le curé avait dû écrire Béatrice, et puis je ne sais pas si c'est le roi ou quelqu'un, en tout cas quelqu'un d'autorisé lui a dit non, vous vous trompez, c'est Béatrix. Donc si vous voulez, le document porte Béatrix, donc on dira Béatrix. Mais c'est toujours amusant de revenir, parce que souvent quand on fait de l'histoire, on se rend compte que les auteurs ont des versions différentes, et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est revenir... revenir à la source, et puis voilà, on peut savoir comme ça. Donc Sophie Hélène Béatrix, baptisée également par le... Alors là, pour le coup, ce n'est plus le cardinal de Rouen qui est disgracié, mais c'est pour le moment l'évêque de Metz qui le remplace au pied levé, si l'on peut dire. Et puis le curé de la paroisse de Notre-Dame, qui était Brocviel, est mort l'année précédente aussi. Et donc là, c'est un nouveau curé, alors il a un prénom extraordinaire, il n'y a qu'au XVIIIe siècle qu'on pouvait faire ça, Aphrodise André Jacob. Aphrodise pour un curé, c'est quand même étonnant. Voilà, Aphrodise André Jacob. Et donc, toujours pareil, les mêmes signatures, hein, comme précédemment. Voilà. Ah, je ne vous ai pas mis les signatures, vous me croirez, on voit le Louis en bas, mais vous ne voyez pas les autres. Cet enfant va vivre d'abord sa naissance est saluée. Alors là vous voyez le fameux almanach de Gotha de l'année suivante qui nous montre la totalité de la fratrie, hein. Louis-Joseph Xavier François Dauphin né en 81, Louis-Charles duc de Normandie, les garçons d'abord, hein, même si les filles sont plus âgées, Marie-Thérèse Charlotte Madame, donc Madame Royale, et Sophie, donc qui n'était pas encore tout à fait, qui n'est pas morte à ce moment-là, puisque l'almanach avait été publié avant. Donc elle va mourir à l'âge de 11 mois, donc elle n'a jamais eu un an en fait, hein, elle est morte à l'âge de 11 mois et 10 jours, le 19 juin 1787, probablement de tuberculose. On a d'ailleurs le procès verbal d'autopsie, là où elle est, on a cette image d'elle qui est une image que... je vais vous l'expliquer ensuite, que Madame Vigée Lebrun avait prévu de placer dans le berceau sur le fameux tableau que tout le monde connaît, hein, ce tableau collectif de Marie-Antoinette et de ses enfants. La petite était placée dans le berceau, et comme elle est morte entre temps, eh bien on l'a effacée, et bizarrement le dauphin Louis-Joseph montre un berceau vide alors que normalement sa petite sœur était censée y être. Donc grâce à cela, on a quand même un certain nombre de dessins préliminaires, donc celui-là, celui que je vous avais montré tout à l'heure, et puis celui-là, donc de cette éphémère Madame Sophie. Elle meurt donc le 19 juin 1787 à l'âge de 11 mois, et Madame Élisabeth, donc la sœur de Louis XVI, montre bien le fait que c'est... explique cette mort en écrivant à son amie Angélique de Maco, Angélique marquise de Bombay. Tes parents t'auront mandé que Sophie est morte le lendemain que je t'ai écrit. La pauvre petite avait mille raisons pour mourir et rien n'aurait pu la sauver. Je trouve que c'est une consolation. Ma nièce, donc Madame Royale, hein, a été charmante. Elle a montré une sensibilité extraordinaire pour son âge et qui était bien naturelle. Sa pauvre petite sœur est bien heureuse, elle a échappé à tous les périls. Évidemment, pour Madame Élisabeth, qui est morte en odeur de sainteté, plus vite on allait au ciel, hein, mieux ça valait. Elle le dit d'ailleurs, elle dit « Ma paresse se serait bien trouvée de partager plus jeune son sort. » Elle aurait voulu mourir jeune, comme ça elle allait directement au ciel sans risquer de pécher. « Pour m'en consoler, je l'ai bien soignée, espérant qu'elle prierait pour moi. J'y compte beaucoup. Si tu savais comme elle était jolie en mourant. C'est incroyable. La veille encore, elle était blanche et rose, point maigrie, enfin charmante. Si tu l'avais vue, tu t'y serais attachée. Pour moi, quoique je l'ai peu connue, j'ai été vraiment fâchée et je suis presque attendrie. Vous voyez, ça montre un peu quand même, aujourd'hui, la perte d'un enfant de 11 mois, c'est un malheur absolu. À l'époque, c'était quelque chose de tout à fait normal et bon, elle est presque attendrie. C'est-à-dire que, bon, c'est quelque chose de naturel, mais ça la touche quand même. Voilà, on est vraiment dans une autre sens de l'époque. Et j'en suis presque attendri lorsque j'y pense. Donc, voilà, ça vous montre. Et encore, on est à une époque où on commence à prendre en compte l'enfant. D'abord parce que les enfants meurent moins facilement en bas âge. Hein, on commence à les soigner mieux. Hein, et donc, petit à petit, la mortalité infantile va baisser. Donc, on attache davantage de prix et d'attention à un enfant, même en bas âge. Autrefois, jusqu'à l'âge de 3-4 ans, on essayait de ne pas trop s'y attacher parce qu'on savait que c'était un petit peu des enfants, des personnages en sursis qui pouvaient mourir à n'importe quel moment. Donc, elle va subir, comme c'était toujours le cas à l'époque pour un prince, une autopsie et un embaumement. Et d'abord, cette autopsie, on a le procès-verbal de cette autopsie, vous voyez, qui se trouve alors dans les archives nationales. Aux archives nationales, on a... Si vous voulez y aller, tout le monde peut y aller. Hein. C'est ce qu'on appelle la cote O1, qui est celle de la Maison des Enfants de France. Donc, dans cette cote O1, on a tous les documents ayant trait à ces enfants. Et donc, on peut retracer comme cela les grandes étapes de leur existence jusqu'en 1789. Donc, vous voyez, là, on a les médecins qui font le procès-verbal. D'où Sussigny, assemblé au château de Trianon pour procéder à l'ouverture du corps de Madame Sophie, 24 heures après sa mort, âgée de 11 mois à 10 jours, aujourd'hui, 20 du présent mois, 4h30 du soir, et en dressé procès-verbal par ordre du roi. Et ensuite, ils expliquent le cerveau, etc. Enfin, bon. Après, c'est un peu gore, comme on dirait, donc on va vous épargner cette lecture. Enfin, si vous voulez, on a ensuite toutes les signatures des différents médecins qui ont assisté à cette... qui ont participé à cette autopsie, et la baronne de Mako, qui était donc la gouvernante de l'enfant. Après cela, évidemment, toutes les personnes qui étaient au service de l'enfant qui venait de naître et de trépasser sont remerciés et on leur donne une pension puisque voilà, ils ont perdu leur emploi en quelque sorte. Donc, vous voyez par exemple la nourrice de Madame Sophie, elle va avoir une pension de 2400 livres. Elle n'a pas travaillé très longtemps, mais bon, ça lui permet quand même d'avoir une indemnité dans la mesure où elle a perdu cette prébende qui lui avait été attribuée. Là, dans cette série O1, vous voyez, d'ailleurs on voit la cote hein, du dossier O1 3799, et eh bien on a les bulletins de santé du premier dauphin au moment où il va être variolisé à son tour, hein, et donc les médecins rédigé un certain nombre de bulletins de santé qui étaient publiés dans la presse régulièrement. 8e bulletin de Monsieur le Dauphin au château de Saint-Cloud à 8h du soir le 14 septembre 1785. Donc on a la mort, la première qui va mourir, donc, et cette petite Madame Sophie, donc voilà, dont le berceau est vide. Et je dirais que cette mort de Madame Sophie en 1787, alors que la monarchie commence à être dans des difficultés politiques très graves, va être un peu le début de la fin, le signe des malheurs qui vont se succéder ensuite. Parce que finalement, à ce moment-là, le premier dauphin, donc Louis-Joseph, commence lui aussi à commencer à être malade, très très malade depuis quelques temps. En février 1784, il a déjà eu un rhume assez violent, mais qui était probablement suivi de fièvre violente, qui était probablement déjà les premières attaques de la tuberculose. On parle de langueur et de dépérissement. Ce qu'il y a, c'est qu'à l'époque, bien sûr, les médecins étaient incapables de faire un diagnostic claire de ce genre de maladie. Donc, en plus, la reine s'illusionne sur la santé de son fils, qui finalement, de plus en plus, va se détériorer. Il va être inoculé, comme j'ai dit, à son tour, en septembre 1785. Et alors là, on choisit pour prélever le pus le fils d'un marchand de bois du Gros Caillou à Paris, qui a un enfant qui a eu lui-même la tuberculose, qui a eu lui-même la variole quelques mois auparavant. On a choisi, le curé de la paroisse du Gros Caillou a choisi un enfant dans une famille respectable, une famille pour servir à inoculer le dauphin. Certains auteurs disent que ce serait à ce moment-là qu'il aurait été contaminé pour la tuberculose en même temps que la variolisation. Rien ne le prouve, les manières d'attraper la tuberculose sont très nombreuses. Il a pu l'attraper de mille et une façons, avec du lait, avec n'importe quoi, ou par même contact aérien. Donc c'est très difficile de dire qu'il a pu l'attraper à ce moment-là, dont on pense qu'il l'avait déjà. Je dirais qu'il avait déjà eu une primo-infection un an auparavant, donc c'est probablement ça n'a rien à voir avec cette variolisation. Donc, si vous voulez, petit à petit, à partir de 1785, ça va être une lente descente aux enfers pour une longue agonie pour cet enfant qui va développer ce qu'on appelle le mal de Pott, c'est-à-dire une tuberculose osseuse qui fait que sa taille se voûte, que sa hanche se déplace, si vous voulez, on lui fait subir en plus un certain nombre de médications qui sont encore plus douloureuses encore que sa maladie. On lui fait porter une sorte de corset pour soi-disant redresser sa colonne vertébrale qui lui fait très mal. On lui fait des cautérisations, des choses horribles qu'on pouvait faire à l'époque. Et finalement, on va l'installer au château de Meudon en pensant que l'air de ce château de Meudon, qui se trouve sur une colline au-dessus de Paris, lui serait salubre et pourrait lui restaurer sa santé. Le roi et la reine viennent le visiter quotidiennement, mais finalement il va mourir le 4 juin 1789 dans la nuit. 4 juin 1789, ça fait déjà un mois que se sont réunis les états généraux, donc on est au tout début de la révolution, et d'une certaine manière la mort de ce dauphin, de ce premier dauphin, Louis-Joseph, marque un peu la mort, le crépuscule de l'ancien régime, d'autant que le roi est très touché psychologiquement par la mort de son fils aîné. Il va se murer pendant quelques jours dans son chagrin, alors que les événements s'emballent au niveau politique. Le tiers-état, le doyen du tiers-état, donc le doyen, le président de l'Assemblée du tiers-état, Jean-Sylvain Bailly, qui sera ensuite maire de Paris, demande, malgré le deuil, de rencontrer le roi. Le roi, dans un premier temps, refuse de rencontrer. Il dit il n'y a donc point de père dans cette chambre du tiers, parce qu'il a envie de penser à la mort de son fils et pas du tout à des choses politiques. Mais l'histoire se fait à ce moment-là, alors qu'il est en quelque sorte absent. Et je dirais que ça n'explique pas tout, mais disons que c'est un des événements à cause duquel Louis XVI va décrocher à ce moment-là, va décrocher du mouvement de l'histoire qui se précipite à ce moment-là. Les obsèques de Louis-Joseph vont être, comme je disais, d'une certaine manière, les obsèques de l'ancien régime. Et c'est d'autant plus surréaliste qu'à Meudon, donc où il est mort, autour de son cercueil, dans sa chambre ardente qu'on a installée, les rigueurs et les mesquineries de l'étiquette de l'ancien régime continuent à se développer et à s'exercer comme si on était encore au cœur de l'ancien régime. Personne n'imagine que dans quelques semaines, il y aura la nuit du 4 août et que les privilèges vont être abolis. On a l'autopsie. Donc on a l'autopsie qui est faite comme pour sa sœur et l'embaumement tout à fait. Et alors ce document, c'est un document intéressant, vous pouvez aller voir assez facilement parce qu'il se trouve juste à côté à la bibliothèque de Versailles, dans les collections patrimoniales des qu'on appelait autrefois Panthéon Versaillais, je ne sais pas si c'est toujours la cote qui existe. Et donc on a ce document qui est un extrait du procès-verbal de l'ouverture du corps de Monseigneur le Dauphin, qui a été rédigé donc par quelqu'un qui assistait à cette opération, donc le 5 juin 1789. Et donc on explique voilà, toutes les maux dont souffrait ce pauvre enfant, en particulier que ses vertèbres étaient tellement carriées qu'elles s'effritaient pratiquement, elles étaient toutes noires, enfin donc il était dans un état vraiment tout à fait pitoyable. À Versailles, on a également un compte-rendu des obsèques, voilà, qui se trouve dans le même dossier, donc si vous voulez, le voir, il est disponible, voilà, on explique comment le corps, le 13 juin, donc quelques jours plus tard, a été transporté à Saint-Denis, et ça sera le dernier, et d'ailleurs le cœur avait été d'abord conduit par le duc de Chartres, donc le futur Louis-Philippe, au Val-de-Grâce. Et donc ces obsèques de Louis-Joseph vont être la dernière cérémonie officielle de l'Ancien Régime, et d'une certaine manière, c'est aussi symboliquement les obsèques de l'Ancien Régime. Vous voyez, on a dans les archives nationales les comptes, qui sont extrêmement bien écrits, avec les obsèques de l'ancien dauphin, au centime près, enfin au centime, au denier, au sol près, tout ce que ça a pu coûter, donc on peut avoir un détail très précis. Là, on a aussi aux archives nationales, dans la série O1, dont je parlais tout à l'heure, l'ouverture du corps et embaumement de l'abdomen également, avec combien ça coûtait. Pour les 4 apothicaires, ça coûtait 600 livres. Et on a des chiffres précis. Ça, c'est la plaque de cuivre qui était placée sur le cœur, donc sur le cœur embaumé. La boîte dans laquelle était le cœur embaumé qu'on a emporté au Val-de-Grâce. Et cet essai est intéressant d'ailleurs parce que Louis-Philippe, qui n'était pas un saint, dans ses mémoires, il avait 15 ans à l'époque, et dans ses mémoires, il raconte cette anecdote. C'était lui qui, en tant que prince du sang, a eu l'honneur funeste d'apporter le cœur de l'enfant au Val-de-Grâce, où on conservait les cœurs royaux et princiers. Il met « Dans les premiers jours de juin, monsieur le dauphin étant mort, je fus chargé en l'absence de mon père, donc le futur Philippe Égalité, que ses fonctions de député empêchaient d'assister aux cérémonies, parce que, évidemment, Philippe Égalité est déjà en plein dans le mouvement révolutionnaire, donc je fus chargé d'accompagner son cœur au Val-de-Grâce. La cérémonie dura 7 heures. Les ducs d'Orléans de ma branche avaient leur sépulture dans le même caveau où on déposait les cœurs des rois, et la messe me dit, en me montrant la place qui m'attendait, « Nous vous aurons là quelques jours. » Ce qui était aimable et paraissait certain dans ce temps-là. Mais j'ai peur à présent que je n'ai jamais le plaisir de me posséder, qu'elle n'ait jamais le plaisir de me posséder dans son caveau. Donc voilà, la dernière cérémonie de ça c'est le fameux caveau des cœurs au Val-de-Grâce qu'on ouvre exceptionnellement. J'ai été obligé de demander une autorisation sur un triple exemplaire au général de Val-de-Grâce pour pouvoir y toper. Évidemment, ces cœurs n'existent plus puisqu'ils ont été profanés au moment de 1793, donc il n'y a plus rien que des boîtes, mais qui n'ont plus rien à voir avec les cœurs royaux. Ça, c'est un cœur royal qui est celui de Louis XIII pour vous montrer comment est-ce qu'on présentait un cœur embaumé. Donc il était placé dans une espèce, c'était un peu comme une momie égyptienne, hein, on le remplissait d'aromates et on l'entourait ensuite d'une espèce de sac ou de bandelette pour le protéger, on le mettait ensuite dans une boîte en forme de cœur. Voilà, et donc le corps donc du dernier dauphin de l'Ancien Régime, puisqu'il y aura encore un dauphin ensuite, Louis Charles, qui deviendra Louis XVII, va être placé à Saint-Denis, et quelques mois plus tard, même l'année suivante, le 17 décembre 1790, Marie-Antoinette se rappelant de cet événement, va dire en écrivant à Léopold II, donc son frère, l'empereur Léopold II, elle lui écrit « À la mort de mon cher petit dauphin, la nation n'a pas eu l'air seulement de s'en apercevoir. À partir de ce moment-là, le peuple est en délire et je ne cesse de dévorer mes larmes. » Voilà. On va s'arrêter là, puisqu'ensuite, pour les enfants de Louis XVI et Marie-Antoinette qui survivent, donc le futur Louis XVI, le futur Louis XVII et puis Marie-Thérèse, Madame Royale, c'est une autre page qui se tourne. Ils vont bientôt quitter Versailles en octobre, s'installer aux Tuileries, et puis ensuite, ce sera le Temple, et puis autre chose que ce dont on devait parler ce soir. Mais on peut en parler si vous voulez, parce que dans le livre, bien sûr, je suis Louis XVII jusqu'à sa mort. Et puis, sa sœur, j'évoque aussi le destin de sa sœur, qui elle vivra jusqu'en 1851, c'est la seule qui survivra à toute la famille. Voilà, si vous voulez poser des questions, je vous écoute. Voilà, ça c'est le buste de Louis XVII, réalisé par mon épouse Catherine, qui est là-bas, voilà. Et qui fait la couverture du livre. Oui.
Bonsoir. Comment Louis XVI a réagi à la mort de Sophie ?
Ben, on n'a pas de... Non, ça ne l'a pas marqué extraordinairement. Il avait, vous savez, son fameux carnet de chasse où il était en général très lacunaire. Et il dit simplement... Je n'ai pas pu aller à la chasse aujourd'hui parce que ma fille est malade. Et puis le lendemain, le jour de sa mort, il met simplement j'ai pu quelque chose aujourd'hui. Ben je n'irai me promener à pied à Marly ou quelque chose comme ça. Mais bon, il fait pas de. Non, il n'y a pas de. Non, c'est vrai qu'un enfant de 11 mois à l'époque, contrairement aujourd'hui, ou au contraire, ça serait encore plus horrible presque qu'un adulte. Non, à l'époque, ça faisait partie des choses naturelles, et voilà, on n'avait pas eu le temps de vraiment s'y attacher. D'ailleurs, Madame Elisabeth dit « je l'ai très peu connu ». Enfin bon, donc finalement, on s'intéressait aux enfants qu'à partir du moment où on était sûr qu'ils allaient pouvoir, enfin sûr, on espérait qu'ils pourraient survivre. Quoi. Non, apparemment, Louis XVI, mais c'est difficile de savoir ce que pensait Louis XVI, parce que, et en général, très laconique dans son journal, le fameux rien pour le 14 juillet, ça veut dire qu'il n'était pas à la chasse, c'est tout. Mais, ou là, quand le duc de Normandie, donc son deuxième fils, Neil, mais tout s'est passé comme pour mon fils. Alors il y a des auteurs qui disent ah, mon fils, ça veut dire que celui-là, c'est pas son fils. Non, c'est parce que mon fils, c'était l'expression qu'on utilisait à l'époque, le premier, le dauphin, le fils aîné, etc. Ça ne voulait pas dire qu'il considérait que celui-là n'était pas son fils. D'ailleurs, s'il avait été considéré, il aurait été le mettre dans son carnet de chasse. Mais non, c'était en général c'était juste une petite phrase très très rapide et il se livrait pas beaucoup. Je pense que c'était quelqu'un qui avait du mal de toute manière à exprimer ses sentiments profonds. Et avoir, il était très en décalage avec son époque, qui était une époque où sensibilité, même je dirais de sensiblerie. Le dit Madame Elisabeth, elle était très sensible. Hein. À l'époque, il fallait être sensible, c'est-à-dire pleurer beaucoup de démonstrations, ce que Louis XVI était incapable de faire. C'est un peu pour ça aussi qu'il a raté peut-être la Révolution, parce qu'il était incapable de jouer un peu la comédie qu'il aurait fallu jouer pour entraîner le peuple. Il était assez maladroit, quoi. C'était un homme assez maladroit, puis il était très, très myope, donc il fallait qu'il soit à 50 cm des gens pour les reconnaître, donc ce qui faisait que, voilà, toute chose que moi, c'est pas nécessaire.
Quoi. Question.
Vous avez on est en possession des deux cœurs, des deux frères, Louis-Charles.
Non, Louis-Charles seulement.
Louis-Charles.
Voilà. Alors. Donc les cœurs, comme je disais, les cœurs qui étaient déposés au Val de Grâce ont été profanés en 1793. Ils ont été. La plupart ont été détruits. Les boîtes qui étaient en vermeil. Utiliser le plomb, etc. Il y a deux cœurs, enfin un cœur et demi, je dirais, qui a été sauvé, c'est celui de Louis XIII et celui de Louis XIV qui ont été récupérés par un peintre. Enfin, c'est ce qui est affirmé par les gens qui l'ont rendu à la restauration. Et donc, c'est pour ça que je vous ai montré le cœur de Louis XIII, parce que le cœur de Louis XIII et celui de Louis XIV n'auraient pas dû être au Val de Grâce en plus, parce qu'ils étaient à Saint-Paul-du-Marais, normalement, à l'église Saint-Paul. Mais Louis XVI, en 1790, disant « les choses commencent à tourner mal, il y a des émeutes à Paris, etc. », on va regrouper tous les chœurs au même endroit. Donc il a fait ramener les chœurs de Louis XIII et de Louis XIV au Val de Grâce avec les autres. Pas de chance, le Val de Grâce a aussi été saccagé, donc les chœurs ont été dispersés. On sait que le chœur du régent a été sauvé aussi parce que dans les souvenirs de l'épouse de Louis-Philippe, Marie-Amélie a dit on nous a rendu un peintre, alors toujours un peintre, on nous a rendu le cœur du régent, et il est à Dreux, si vous êtes à Dreux, mais c'est un endroit où on ne peut pas aller, qui est dans un tunnel, il est dans une espèce de grandes amphores, et là ce serait le cœur du régent, qui aurait été rendu aussi par un peintre. Pourquoi des peintres? Parce que à l'époque, c'est ce qu'on appelait de la momie, c'est-à-dire tous ces corps embaumés comme ça, on les réduisait en poussière, et soi-disant on les utilisait pour faire un glacis qui était utilisé en peinture pour fixer les peintures, donc les peintres utilisaient. Donc, ce qui fait que le cœur de Louis XIII a été rendu quasiment entier, comme vous le voyez là. Par contre, celui de Louis XIV, dans la boîte Louis XIV, il y a des petits bouts, et puis il y a en plus des fusains que le peintre utilisait à l'époque, qui ont été laissés là. Donc, c'est un peu symbolique ce qui reste de Louis XIV. Par contre, apparemment, celui de Louis XIII, si c'est bien celui de Louis XIII, parce que on n'a que la bonne foi de la personne qui l'a rendu, apparemment est en entier. Alors pour les cœurs du premier dauphin, donc il a été apparemment il avait été sauvé aussi au moment de saccage du Val de Grâce, puisqu'il est apparu en 1812 à la mairie du ce qui est le 5e arrondissement actuel, qui était le 12e à l'époque, c'est-à-dire le Panthéon. Et donc là on a un échange de courrier entre le maire de l'époque disant on a récupéré le cœur du premier dauphin, où est-il, que doit-on en faire, et puis on a perdu sa trace depuis. Donc tout ce qu'on a gardé du premier dauphin, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est la plaque donc qui était ça c'est cette plaque qui était la plaque du premier dauphin, parce qu'un certain nombre de ces plaques qui avaient été volées au Val de Grâce ont été récupérées par un collectionneur qui les a données maintenant au musée du Puy-en-Velay. Et c'est des choses assez compliquées. Donc au musée du Puy-en-Velay, vous avez une collection de plaques qui ont été récupérées comme ça au Val de Grâce, dont celui-là qui est donc celle de... Donc en fait, il y avait une boîte en forme de cœur. À l'intérieur, il y avait une première plaque qui était soudée à l'intérieur, on fermait, et par-dessus, on mettait une autre plaque comme ça. Il y avait deux plaques, en fait. Et donc ça, c'était la plaque extérieure, mais qui a été sauvée avec un certain nombre d'autres plaques. Mais cœur lui-même disparaît en 1812. Alors, on nous a, dans les histoires d'analyse ADN, bien sûr, on nous a dit, mais est-ce que vous n'avez pas utilisé le cœur du premier dauphin? D'abord, le cœur du Louis XVIII, du Louis XVII, on le suit très bien à travers ses pérégrinations depuis la prison du Temple, où il a été prélevé par le médecin Pelletan au moment de son autopsie. Et surtout, il a été conservé d'une manière tout à fait, inhabituel pour un cœur royal, puisqu'il a simplement été déposé dans l'alcool, et donc il a été desséché, il s'est desséché naturellement, alors que les cœurs royaux, comme je le disais, étaient embaumés, on les ouvrait, on les nettoyait, on mettait des aromates à l'intérieur, on les enfermait dans une espèce de petit sac, etc. Donc, vous voyez, ça n'avait pas du tout le même aspect qu'un cœur qui simplement s'est desséché dans l'alcool, comme cela. En plus, Pelletan le décrit, et on a des descriptions successives. Par contre, effectivement, peut-être qu'un jour, on retrouvera peut-être un jour, dans le fond d'une sacristie, le cœur du premier dauphin, parce qu'après tout, en 1812, il existait encore, il était à la mairie du 12e arrondissement, c'est-à-dire du 5e actuel. Il a bien dû se retrouver quelque part. Alors, j'ai cherché. Il y avait un projet qui était de faire du Panthéon, qui devait redevenir l'église Sainte-Geneviève, donc on devait faire... On devait y placer les cœurs royaux, ça avait un projet, j'ai vu ça, mais a priori ça n'a jamais été fait. Donc voilà. En histoire, on ne sait pas tout, hein. Il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. Quand on ne sait pas, il ne faut pas dire.
Oui, merci. Merci beaucoup. exposé pour couper l'ouvrage sur Louis XVII. Non, mais là, on a tous une invitée. Merci beaucoup.
Je vous en prie.